Kiosque Magazine.
Bonjour et bienvenue à Kiosque Magazine. Vous êtes en compagnie de Dominique Meillet et de Geneviève Patterson. Bonjour Geneviève.
Bonjour Dominique.
Aujourd'hui, mercredi 12 novembre, au menu de Kiosque. Alors, notre vie est-elle équilibrée? C'est la question qu'on se posera. Un petit guide de drague pour les hommes avec l'art de bien se chicaner pour les couples. Une lettre à mes filles de Patrice Godin. Et faire les bons choix à l'épicerie et le riz, la céréale multi-ethnique. Ça, je vais vous parler de tout ça. Et toi, Geneviève, de quoi vas-tu nous parler?
Eh bien, moi, je vous parle de la technologie qui changerait nos vies. C'est par Isabelle Bergeron dans le coup de pouce de ce mois de novembre. Et puis, en premier lieu, je vais aussi vous parler des filles qui prennent la relève dans les entreprises familiales. C'est par Cathy Noël dans le Châtelaine du mois de novembre.
Notre vie est-elle équilibrée? C'est un texte par Isabelle Bergeron dans le coup de pouce d'octobre 2014. Avoir une vie équilibrée, c'est le souhait de toutes. Mais qu'est-ce qu'une vie équilibrée? Et surtout, quelle est notre propre définition de l'équilibre? On réalise que notre vie n'est peut-être pas aussi harmonieuse qu'elle pourrait l'être. Peu importe, on s'est réjoui, on a franchi le premier pas vers une vie plus équilibrée. Réaliser et accepter que notre vie manque d'équilibre est essentiel si on veut apporter les changements pour y remédier, dit Sylvie Martin, psychologue et fondatrice d'Équilibre Vie, qui est un cabinet spécialisé en équilibre travail-famille. Certains signes précurseurs nous auront sans doute aussi mis sur la piste. Insatisfaction, frustration, fatigue. Le déséquilibre, c'est l'écart entre la façon dont on perçoit notre vie actuelle et ce dont on a vraiment besoin, avance la spécialiste. Mais il faut aussi distinguer désir et besoin. On se dit peut-être qu'on aimerait passer 6 mois par année au Mexique, mais quel est le besoin de ce désir caché? Travailler moins? Avoir plus de temps pour soi? Apprendre à décrocher? On doit se questionner, puis trouver des solutions réalistes. Il existe certainement autant de définitions qu'il y a d'individus. Pour une personne, cela équivaudra à travailler 60 heures. Pour une autre, passer le plus de temps possible en famille. Pour une autre encore, passer de nombreux moments seul à ne rien faire. Néanmoins, on peut difficilement faire abstraction de certains principes. Une mère qui ne verrait ses enfants que 10 heures par semaine pourrait-elle vraiment prétendre avoir une vie équilibrée? Et celle pour qui la valorisation ne passerait que par autrui et qui ne prendrait jamais de temps pour elle? Sans doute que non. Une vie qui est équilibrée est indissociable de certains fondements, comme prendre soin de notre corps en dormant bien, en bougeant suffisamment et en prenant des pauses, par exemple, affirme Jacques Lafleur, psychologue et co-auteur des 4 clés de l'équilibre personnel. La réalisation de notre potentiel fait aussi partie d'une vie équilibrée, ce que permet souvent le travail ou le bénévolat. Tout comme avoir des échanges satisfaisants avec les autres, nos proches notamment. Je dirais qu'une vie équilibrée procure le sentiment que la personne que l'on est se développe bien, évolue selon ses valeurs. De l'avis de l'expert, peu d'entre nous prennent toutefois le temps de s'arrêter pour se demander si ce qu'ils vivent est en accord avec leurs valeurs. Pire, beaucoup ne savent même pas quelles sont leurs valeurs. Un temps d'arrêt est pourtant essentiel pour prendre le recul nécessaire au réajustement du tir. Mais dans notre société, on est davantage invité à participer au développement économique qu'au développement personnel, ironise Jacques Lafleur. On a pris le temps de s'arrêter, de réfléchir à ce qui nous indispose et à ce que représenterait pour nous une vie équilibrée. Résultat, Réaliser qu'on voudrait passer plus de temps avec nos enfants alors qu'on a un horaire de travail chargé nous laisse-t-il comme seul choix de quitter notre emploi ? On envisage plutôt les options qui s'offrent à nous, suggère Sylvie Martin. Déménager plus près de notre lieu de travail ou proposer à notre employeur de revoir notre horaire. Serait-ce plutôt la difficulté à lui refuser quoi que ce soit ? En quel cas, on devra apprendre à dire non. Heures supplémentaires, nouvelles responsabilités, réunions les jeudis soirs. Possible aussi que la situation soit circonstancielle. On démarre une entreprise, on a accepté une promotion. Dans ce cas, le temps, celui pour s'adapter, se familiariser, s'organiser avec notre conjoint, aidera vraisemblablement à rééquilibrer les choses. Même chose si on est maman de jeunes enfants. Leur besoin d'attention et de soins quotidiens prendra un peu moins de notre temps au fil des ans. D'ici là, on tente quand même de grappiller quelques heures ici et là pour nous et notre couple. Et bien sûr, on n'hésite pas à demander de l'aide quand c'est envisageable. On doit aussi essayer de se défaire de l'influence extérieure qui trompe peut-être notre définition de vie équilibrée. La pression de la performance et de la consommation est beaucoup plus forte qu'avant et a un impact sur nos vies, dit Jacques Lafleur. Une grosse maison, les derniers gadgets à la mode, la reconnaissance qu'on pense qu'on aura en travaillant 60 heures, est-ce vraiment ce qu'on veut ? La réponse est peut-être oui. Et ce sera très bien ainsi si l'équilibre et le bien-être correspondent à cela pour nous. Mais se poser la question est important. Par ailleurs, Sylvie Martin avance que c'est souvent la sphère soi qui est en déficit chez les femmes. Elles font souvent passer les besoins des autres avant les leurs, mais elles doivent apprendre à penser davantage à elles, à se réserver du temps juste pour elles sans se sentir coupable, affirme la psychologue. Un truc, si on a des enfants, quel est l'exemple qu'on souhaite leur donner ? Qu'il n'est pas bien de penser à soi et qu'on doit se sentir coupable quand on le fait ? Certainement pas. On ne doit pas oublier qu'on a du pouvoir sur notre vie et qu'on a toujours le choix, rappelle Sylvie Martin. Parfois, à cause des conjonctures de notre vie, celle-ci peut sembler déséquilibrée, mais on a néanmoins le choix de l'attitude à adopter face à la situation. Une réflexion s'impose, une phrase qu'on entend toujours de nos jours, « Je suis débordée ». Cette phrase, à peu près tout le monde se l'approprie sans réfléchir. On se rappelle qu'être débordé n'est pas une qualité et que cela ne constituera sans doute pas l'épitaphe de notre pierre tombale. Désencombrer nos vies de « je dois » pour retrouver un peu de temps libre est un élément important.
Les filles prennent la relève. D'ici 5 ans, 38 000 entrepreneurs québécois se mettront à la retraite. Certains ont déjà commencé à transmettre le flambeau, de plus en plus souvent à leurs filles. En voici deux qui ont ouvert la voie. Par Cathy Noël, dans le Châtelaine de novembre 2014. Nancy Simoneau, présidente, groupe Simoneau, 135 employés. Ma fille, tu es née dans la bonne ère. Quand tu seras grande, les femmes vont avoir accès au monde des affaires. Marguerite, la grand-mère maternelle de Nancy Simoneau, ne croyait pas si bien dire. À 32 ans, sa petite-fille a été propulsée à la tête de groupe Simoneau, un important fabricant de chaudières industrielles qui compte plus de 135 employés. « Ma grand-mère était une féministe avant l'heure », dit Nancy, qui a aujourd'hui 45 ans. « Je pense qu'elle a un peu tracé ma voie. » Maintenant, dans les parties de famille, tout le monde m'appelle Marguerite. Les cheveux remontés en chignon et les manches retroussées, elle semble toujours prête à livrer une autre bataille, combative et lucide. Elle est d'ailleurs persuadée qu'elle ne serait pas là si elle avait eu un frère. Je n'aurais simplement pas été pressentie. Chacune de ces phrases est entrecoupée d'un éclat de rire, Mais on devine que Nancy a ramé fort pour surmonter les préjugés et se convaincre elle-même qu'elle avait ce qu'il fallait pour prendre les commandes du constructeur de chaudières. Car René Simoneau ne lui a pas fait de cadeau en lui laissant son usine. C'était au printemps 2001. Il devait rester pour assurer la transition. Mais 3 mois plus tard, les tours du World Trade Center à New York se sont effondrées et avec elles, les certitudes du fondateur de groupe Simoneau. Nous étions tous dans la salle de réunion à regarder les événements à la télé, raconte Nancy. Mon père s'est levé d'un bond en disant « C'est fini pour moi, le monde est devenu trop complexe. » Il est sorti et n'est jamais revenu au bureau. L'année qui a suivi a été la pire qu'a connue l'entreprise. Son chiffre d'affaires a baissé de 30 % d'un seul coup. Mes compétiteurs faisaient des paris sur le temps que ça prendrait avant que je plante, dit Nancy. Mais si je suis la fille d'eux, je suis aussi une entrepreneur dans l'âme. Un trait de caractère qu'elle s'est découvert sur le tard. Quand, à 16 ans, elle a intégré l'entreprise pour un premier emploi d'été, c'est parce qu'elle était trop timide pour chercher ailleurs. Son ascension à la présidence a été soigneusement planifiée. Elle a occupé à peu près toutes les fonctions dans la boîte. Si un employé me dit que je ne comprends pas, je peux lui répondre que j'ai déjà fait sa job. Son conjoint, chargé de projet au sein de groupe Simoneau pendant 10 ans, y est pour quelque chose, raconte Madame la présidente, qui est aussi mère de 2 filles de 18 et 22 ans et d'un garçon de 17 ans. À la maison, mon chum s'occupait de la routine du soir avec les enfants et moi, je m'occupais des matins. L'aîné, Frédéric, a elle aussi commencé à travailler dans l'entreprise. Future patronne, au dire de sa mère, la jeune femme a déjà son opinion sur la trajectoire de l'établissement. C'est Marguerite qui serait fière. Élisabeth Bélanger et Hélène Bélanger, maison Orphée, 35 employés. Rendre ses enfants autonomes peut parfois se retourner contre soi. Florent Bélanger en sait quelque chose. Quand cet ex-commissaire industriel à la Ville de Québec a voulu intégrer à temps complet la maison Morphée, qu'il avait achetée en 1992 et confiée à ses 2 filles, ces dernières lui ont répondu « non merci ». Aucune des deux n'avait pourtant de formation en alimentation ou en administration. Élisabeth, qui est arrivée en 1993, se destinait à la traduction. Hélène, qui l'a rejointe plus tard, a étudié en droit. Et ce qui devait être un projet de retraite pour Florent est devenu leur projet de vie. Elles en ont pris et emballé des commandes, et elles ont bâti un petit empire d'huile, de vinaigre et de moutarde haut de gamme qui emploie maintenant 35 personnes. Notre père connaissait ces 2 moineaux. Il savait que nous ne prenions pas de décision à la va-vite, et il nous faisait confiance. Elles ont commis des erreurs, se sont relevées et elles ont recommencé, lorsque petites, elles apprenaient à rouler à vélo. Nos parents nous ont montré avoir du fun dans ce qu'on fait et dédramatiser nous aide dans les moments les plus difficiles. Elles se souviennent de discussions musclées avec leur père sur la direction à prendre. Mais tout était oublié au souper du dimanche, poursuit Hélène. Apprendre à départager l'effet des émotions, c'est très utile dans une entreprise familiale. Aux femmes qui s'apprêtent à succéder à leurs parents, elles conseillent de réfléchir aux raisons profondes qui les motivent. Il faut avoir soi-même le désir d'entreprendre. Mais jamais pour faire plaisir à papa, disent-elles en cœur. Et leur relève à elle, ce n'est pas une priorité pour l'instant, mais on n'attendra pas d'avoir 60 ans pour en parler. Florent nous a aussi sensibilisés à ça.
Une belle réussite, hein?
Oui.
Dis donc, 2 belles réussites.
Oui,
hein?
Très inspirant.
Oui, tout à fait. On écoutait Amélie avec la chanson « Les filles ». Voilà, j'ai bien dit parce que je connais pas cette chanteuse et il y a Jean-Sébastien qui me faisait des petits signes, qui se moquait de moi. Un petit guide de drague pour les hommes, c'est par Stéphanie Dompierre dans le Elle Québec de novembre 2014. Allez les filles, laissez cette chronique bien à la vue des gars de votre entourage. Stéphane Dompierre profite du spécial homme de Elle Québec pour leur donner une petite leçon de séduction. Ce mois-ci, on m'a accordé la permission de m'adresser aux hommes. Les femmes sont donc priées de tourner la page maintenant, ce qu'on va bien sûr ne pas faire. Bon, nous voilà entre nous. Hommes, laisse-moi te parler de drague. En Amérique du Sud, les femmes se font inviter à danser toute la nuit dans les discothèques. En France, elles se font constamment courtiser dans les bars et les cafés. En Italie, elles ont droit à des déclarations d'amour enflammées et à des demandes en mariage même sur la rue. Ici, la vie sentimentale des femmes célibataires se résume souvent à un désert. Le calme plat, aucun homme ne les approche. C'est que toi, homme québécois, tu es timide. Oh, bien sûr que les timides comme toi, il y a les sites de rencontres. Sauf qu'avec ton sourire débonnaire et la description méticuleuse de ta personne, de tes ambitions et de tes loisirs, tu passes inaperçu. Tu es le gars sympathique caché dans une forêt de weirdos. Il y a ceux qui posent torse nu avec des animaux exotiques dans les bras, les prédateurs sexuels qui envoient des photos de leurs anatomies ou encore les poètes à la syntaxe déficiente, dont la correspondante se limite à « Salut, ça va ?» ou « T'es vraiment belle ?» Pas étonnant que les femmes abonnées à ces sites se découragent bien avant d'avoir eu la chance de te connaître. Et sais-tu quoi ? Il existe un endroit nettement meilleur pour les rencontrer, ces femmes. Dans la vraie vie. Elles sont là, partout. Dans les bars, les épiceries, les boutiques, elles se baladent dans les parcs, elles remplissent leurs bouteilles d'eau aux fontaines, elles font la file d'attente pour un café. Et elles ne demandent qu'à être charmées. Il y en a une qui t'intéresse ? Prends une grande respiration et va vers elle. Les hommes autour de toi retiendront leur souffle. Ils se diront « Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il est fou, il va tout de même pas cruiser cet inconnu comme ça, pour de vrai. » Ils seront jaloux. Ils envieront ton courage. Et puis, qu'est-ce que tu as à perdre ? Si elle te revire de bord, tu vas t'en remettre. Tu ne la connais même pas encore. D'ailleurs, peut-être qu'elle ne te plaira pas du tout une fois qu'elle aura ouvert la bouche. Ça se peut. Mais ce n'est pas en restant assis à ne rien faire que tu le sauras. Va sans crainte et rappelle-toi que les femmes trouvent ça mignon comme tout, la timidité. Le problème, c'est qu'aucun homme timide ne les aborde. Sois l'exception à la règle. Tu auras peut-être les jambes qui flageolent, les joues rouges et les mains moites, mais tu seras là, debout, près d'elle. Et rendu là, je dis quoi ? Me demanderas-tu, à la recherche d'une irrésistible entrée en matière. Essaye ça. Allô ? C'est simple et efficace. Pas de blagues ratées, lancées au mauvais moment, pas de compliments macho ou mal interprétés. Pas de vanité virile censée te mettre en valeur, juste un contact humain, un vrai. La suite t'appartient. Si tu sais faire des phrases complètes et que ton hygiène personnelle respecte les normes, je t'assure que tout ira bien. Voilà. Et après ce petit guide de drague, quelques conseils qui sont très utiles pour ceux qui sont déjà en couple. C'est l'art de bien de se chicaner et c'est dans le mois et compagnie de novembre par Clémence Rissler. Beaucoup d'entre nous croient que lorsqu'on rencontre notre véritable âme sœur, on devrait vivre en parfaite harmonie pour le reste de nos jours. Or, pour le psychologue Yvon Dallaire, spécialiste des relations de couple, il n'en est rien. Lors des premiers mois de passion, il se peut effectivement que les conflits soient inexistants, affirme-t-il. C'est souvent après cette lune de miel que le vent tourne. En fait, il faut savoir que le couple ne rend pas heureux en soi. La façon dont on réussira à gérer les crises fera en sorte qu'on sera heureux ou non. Étonnamment, pour le psychologue, l'art de bien se chicaner ne rime pas avec compromis. Je n'aime pas ce concept car il implique qu'on abandonne certains de nos principes. Dans cette situation, il n'y a que des perdants, selon moi. Ce qu'il faut négocier, ce sont plutôt des ententes à double gagnant, conseille-t-il. En effet, au cours de ses années de pratique, il a remarqué que les couples les plus heureux sont ceux qui sont capables de se mettre d'accord dans leurs disputes sur la façon de vivre avec leurs désaccords. Alors, quelques petits conseils de ce psy. Quand un conflit éclate, on en profite souvent pour exprimer en bloc tout ce qui ne va pas. Toutefois, à trop s'éparpiller, la situation risque de s'envenimer. Il vaut mieux se concentrer sur un problème à la fois. Ne jamais remettre en doute l'amour et la bonne foi de l'autre. C'est souvent ce qu'on fait quand on se retrouve à court d'arguments pour défendre son point. On évite donc les « si tu m'aimais vraiment, tu changerais d'idée ». L'un des problèmes avec les chicanes de couple, c'est qu'elles surviennent trop souvent lorsqu'une situation conflictuelle se présente, quand on a les nerfs à vif. Il vaut mieux laisser la poussière retomber avant d'entamer une discussion. Il faut commencer la discussion sur une bonne base, calmement. Même si on sent que la moutarde nous monte au nez, on prend le temps de bien respirer. Cela aide à garder son sang-froid. Gardez en tête l'image de la balle lancée au mur, car le même principe s'applique aux querelles. Si on formule des reproches acerbes, il faut être prêt à en recevoir. Laissez l'autre exprimer ses idées au complet, sans l'interrompre. Communiquez ses attentes de façon positive et non ses frustrations. Elle est la clé pour un échange constructif. Et on invite l'autre à faire de même. Évitez les mots « toujours » et « jamais » qui, bien qu'ils aient un grand impact, ne traduisent aucune nuance et collent rarement à la réalité. S'accorder un temps de pause quand la discussion devient toxique, en remettant ainsi notre échange à plus tard, on prouve qu'on s'aime encore malgré nos divergences. Il n'est toutefois pas conseillé de le reporter à plus d'une journée. Tenter de se parler sur le ton de la confidence plutôt que de hurler, on s'entend toujours mieux à 30 décibels qu'à 90. Les hommes aussi sont aussi émotifs que les femmes, mais ils parlent plus difficilement de leurs émotions. Quand ils s'ouvrent, il est donc important de les valoriser et de les mettre en confiance. On devrait laisser les conflits en dehors de la chambre à coucher et donc les régler avant la fin de la journée. Une fois au lit, il est déconseillé de parler de ce qui ne va pas au lit, car cet endroit doit demeurer un lieu consacré au sommeil et aux relations sexuelles. Et de façon générale, les hommes ont besoin de plus de temps que les femmes pour revenir au calme. Après une altercation, on s'assure donc que les deux conjoints ont repris leurs esprits avant de revenir à la charge s'il y a encore des points à aborder. Une pédicure 100% bio. Pour soigner nos pieds aux petits oignons, on s'offre un pédicure thaïlandais réalisé avec des produits bio, végétaliens et exempt de toluène et autres produits nocifs. Le toluène, moi je ne savais pas que ça existait, je ne connaissais pas.
Non, mais,
apparemment c'est très nocif. Pour amorcer la détente, on plonge les pieds dans un bassin rempli d'eau aromatisée à l'huile essentielle de géranium. On poursuit avec une exfoliation au sel de jasmin et un massage à l'huile de jasmin. On termine le traitement par la pose d'un vernis non toxique. Et ça, ça se trouve chez espacenomade.ca. Ça dure 45 minutes et c'est à peu près $55.
Du sucre, non merci. Une découverte récente de Caroline S. Duchesne, Isabelle Dumas et Caroline Diorio, trois chercheuses de la Faculté de médecine de l'Université Laval, pourrait inciter certaines femmes à revoir à la baisse leur consommation de sucre. En effet, menée auprès de 1555 participantes, l'étude établit un lien entre le sucre ajouté et la densité mammaire. En résumé, la densité mammaire des femmes qui boivent plus de 3 portions de boissons sucrées par semaine était de 3 points de pourcentage plus élevée que chez celles qui n'en boivent pas. Et cet écart pourrait, selon les chercheuses, augmenter le risque de cancer du sein.
Parfaitement brouillé, les œufs brouillés secs, non merci. Ici, la technique pour les servir bien crémeux, fouetter les œufs avec un peu de crème ou de lait, chauffer un poêlon à feu moyen doux, y faire fondre une noisette de beurre et verser les œufs dès que le beurre commence à mousser. À l'aide d'une cuillère de bois, racler les œufs en les ramenant vers le centre, sans arrêter, jusqu'à ce qu'ils soient presque cuits. Une cuisson lente est le secret. On résiste donc à la tentation d'augmenter le feu. Retirez le poêlon quelques secondes avant que les œufs soient complètement cuits et les assaisonnez. Le temps de préparer nos assiettes et ils seront parfaits. Est-ce que la paternité change réellement les hommes ? Oui, répond l'acteur Patrice Godin, dans cette lettre qu'il adresse à ses trois filles, et beaucoup plus qu'il ne l'avait jamais soupçonné. C'est « Lettre à mes filles pour plus tard », donc de Patrice Godin, et c'est dans le Elle Québec de novembre 2014. Mes belles, mes si belles filles, la première fois que j'ai rencontré celle qui allait devenir votre mère, on promenait nos chiens. Intérêt vague sur le plateau Mont-Royal, un matin, tard en automne. Un samedi, je dirais, je crois même qu'il neigeait un peu, une neige tranquille qui flottait autour de nous. On a échangé deux ou trois mots, un sourire, rien de plus, et pourtant. Il est resté en moi quelque chose de cette jolie fille croisée par hasard. Ce n'est pas facile à décrire, à discerner comme ça. Une impression, une sensation, un frisson peut-être, je ne sais pas. Mais c'était quelque chose de beau, de doux, d'un peu brûlant. Il aura fallu plus de 2 ans avant qu'on se parle pour vrai, qu'on saisisse l'intérêt qu'on avait l'un pour l'autre, qu'on échange nos numéros de téléphone, qu'on s'invite à souper, qu'on commence à se fréquenter, à sortir ensemble, comme on dit, même si, soyons honnêtes, on ne sortait pas beaucoup. Il aura fallu plus de 2 ans, mais à partir de là, j'ai su. J'ai su que c'était elle. Il n'y avait pas de questions à se poser, il n'y avait pas de doute à avoir. J'ai tout de suite su que cette femme, cette belle amoureuse, ferait partie de ma vie, plus qu'aucune autre, et qu'elle serait, quoi qu'il advienne, la mère de mes enfants. Votre mère. Je ne me suis pas trompée. Aujourd'hui, 14 ans plus tard, vous êtes là, mes trois petites louves. 12 ans, 10 ans, 5 ans. Chacune de vos naissances est, pour moi, un moment d'éternité. Un moment de beauté, de bonheur absolu. Et chaque jour de vos vies est un miracle. Une lumière qui scintille en moi, une lumière qui me donne de la force, du courage, une lumière qui me fait grandir, qui me nourrit, qui m'enracine à la terre comme un chêne. Naturellement, il y a des hauts et il y a des bas. Comme dans chaque famille, on affronte nos petites tempêtes quotidiennes, nos tourments passagers, nos drames de rien du tout, qui nous virent à l'envers, mais après lesquels on retombe toujours sur nos pieds. Ce n'est que normal, j'essaie de ne pas trop en faire. Sauf que, voilà, je dois l'avouer. Il m'arrive souvent d'avoir peur, comme je n'ai jamais eu peur. Il m'arrive souvent de douter, comme je n'ai jamais douté, de la vie, de moi. La peur, Dois-je vous apprendre qu'on vit dans un monde qui n'est pas toujours amusant ? Avant, je m'en balançais pas mal de ce monde quasi cinglé et des fous furieux qui le peuplent. Mais maintenant, oui, j'ai peur. Des grandes et des petites choses, du mal qu'on pourrait vous faire. Des gens que vous croisez parfois ou que vous croiserez plus tard. Des regrets qui pourraient naître et germer en vous, qui pourraient pourrir vos âmes. J'ai peur, oui. Des guerres absurdes qui éclatent à tout bout de champ, peur de la violence gratuite, ordinaire, celle des mots, celle des gestes, cette violence qu'on ne voit jamais venir. Je voudrais tellement que les beautés de ce monde l'emportent sur les horreurs et que vos cœurs ne soient pas noircis par le cynisme, l'égoïsme et l'avidité, mais plutôt emplis de compassion, de sincérité, de dévouement. Je ne peux rien contre cette peur, sinon prendre soin de ne pas vous la transmettre et vous sourire tendrement en me rongeant les sangs. Et le doute, ah, ce fouti, maudit doute. Être père n'est pas une mince affaire, je me pose souvent des questions. Suis-je à la hauteur ? Suis-je un bon papa ? Un papa présent, fort, juste et aimant ? Est-ce que j'arrive à vous éduquer, à vous protéger, à vous aimer, à vous apprendre deux ou trois trucs essentiels sans être moralisateur, surprotecteur, vieux jeu, dépassé, sans être encombrant, gênant, abrutissant, sans avoir l'air d'un triple idiot ? Il arrive que je m'énerve moi-même d'être le père que je suis. Si vous saviez comme je vous aime, si vous saviez comme je m'en veux parfois de m'emporter, si vous saviez comme j'ai raison parfois de m'emporter, si vous saviez comme j'ai le souvenir vivant de vos petites mains de bébé dans les miennes, et si vous saviez combien j'aime vous tenir serré contre moi sans dire un mot, si vous saviez à quel point je m'ennuie des siestes d'après-midi qu'on faisait ensemble, avec votre biberon et vos doudous. Si vous saviez combien ça me rend fou de vous voir vous chamailler entre sœurs, et si vous saviez aussi combien je vous comprends. Si vous saviez comment, chaque fois que je vous vois rire toutes les trois ensemble, mon cœur se gonfle encore plus d'amour, même si rien n'y paraît, même si je suis de mauvais poil. Si vous saviez. Mais bien sûr, vous n'avez pas besoin de savoir tout ça, pas tout de suite. Si j'ai fait mon travail de père de la bonne façon, plus tard, dans longtemps, je l'espère, quand je ne serai plus là, vous sentirez la chaleur de mon souvenir, mon empreinte sur vos cœurs. Vous retrouverez alors tout de moi, tout, sauf la peur et le doute. Je vous le promets. J'ai toujours tenté d'avancer sans regret. Malgré cela, il y en a bien deux ou trois qui se sont accrochés le long de mon chemin. On fait des erreurs, on prend des détours. On se perd un peu beaucoup, si ça se trouve. Aussi, si j'avais à recommencer ma vie, je bifurquerais peut-être à droite ou à gauche à certaines occasions. Je ne chercherais pas à prendre les raccourcis. Mais il y a une chose que je ne changerais pas. C'est le moment où je me suis retrouvée sur ce terrain vague, au beau milieu du plateau Mont-Royal, un samedi matin tard en automne, avec la neige qui tombait, toute douce et blanche, sur le sol terreux d'une vieille gare de train, en compagnie de cette jolie femme. Pour rien au monde, je ne changerais ce jour où, pour ainsi dire, tout a commencé. Ce jour où votre future mère et moi, on a promené nos chiens.
C'est un texte très mignon que Dominique nous lisait et qui sait peut-être qu'une histoire d'amour pourrait commencer grâce à la technologie parce que oui, la techno change nos vies. C'est un texte d'Isabelle Bergeron dans le coup de pouce de novembre 2014. Internet, réseaux sociaux, téléphones intelligents, les nouvelles technologies permettent désormais d'être connectés en permanence, pour le meilleur et pour le pire. Plus de 80 % des Canadiens naviguent sur Internet. Un Canadien sur deux possède un téléphone intelligent et 69 % de la population ayant visité En fait, excusez-moi, les médias sociaux n'ont jamais été aussi populaires, car 69% de la population ayant visité au moins un site de réseautage au cours de l'an dernier. On est constamment branché et ça ne changera pas dans l'avenir. Bien au contraire, dit Geoffroy Garon, conseiller Internet et médias sociaux. C'est évident que ça change nos comportements sur à peu près tous les plans de notre vie. De quelle manière? Pour Nicolas Saussier, un socio-anthropologue versé dans les nouvelles technologies, il est difficile de le dire précisément. L'impact des nouvelles technologies dans nos vies est un peu comme celui qu'a eu la création de l'écriture. Ça a façonné notre façon d'interagir avec les autres, de voir le monde même. Je pense que les nouvelles technologies auront des répercussions tout aussi importantes. Jusqu'où les technos influencent-elles notre quotidien? On fait le point. Tout d'abord, couples et familles pour garder le contact. On n'a qu'à penser aux sites de rencontres en ligne pour réaliser que la technologie a définitivement marqué notre vie amoureuse. On peut aussi songer aux infidélités virtuelles qui entraînent dans leur sillage des difficultés bien réelles pour plusieurs couples. Mais un des principaux effets des technologies sur le couple et la famille semble être relié à la communication, à la présence de l'autre. Car s'il est très pratique, oui, de pouvoir envoyer un texto à notre conjoint pour qu'il achète un pain en rentrant du bureau, trop de temps passé à l'écran ou en ligne par l'un ou l'autre peut devenir problématique. Selon un sondage américain paru en 2013, 23% des répondants estimaient que leur partenaire passait trop de temps à son ordinateur ou son téléphone intelligent. Rester en contact avec l'autre, entretenir nos liens affectifs avec les gens qui comptent pour nous, est sans doute l'un des plus grands défis qu'imposent les nouvelles technologies, soutient Nicolas Saussier. À la maison, on a dû établir certaines règles, comme celle, de fermer notre téléphone durant les repas et de ne pas passer plus d'une heure à l'ordinateur le soir, explique Rachel. Mon chum et moi avons pris cette décision quand, un jour, ça m'a frappé de nous voir tous les deux penchés sur nos téléphones pendant un souper au restaurant. On était tout simplement ridicules. Depuis, leur couple ne s'en porte que mieux, bien qu'ils doivent régulièrement se ramener à l'ordre. Tout comme doivent le faire bien des parents avec leurs enfants. Une étude réalisée par la Kaiser Family Foundation en 2010 révélait que les enfants âgés entre 8 et 18 ans passaient 7 heures par jour à utiliser la technologie pour se divertir. Depuis qu'elles ont 3 ans, mes jumelles sont irrésistiblement attirées par Internet, dit Josiane. On en a un peu réglementé l'utilisation, par exemple en plaçant l'ordinateur dans une pièce commune, mais on a surtout essayé de les inciter à développer d'autres intérêts, comme les sports et la musique. Aujourd'hui, elles ont 8 ans et sont équilibrées. Elles aiment bien la technologie, mais je pense qu'elles préféreraient aller jouer au soccer plutôt que de passer une soirée devant un écran. Santé, ne pas perdre le contrôle. Certains chercheurs croient que tout ce temps passé par les enfants devant les écrans a une incidence sur la prévalence des cas d'autisme. D'autres pensent que ça favorise la dépression. D'autres encore avancent que les radiofréquences émises par nos cellulaires sont néfastes pour notre organisme. Une chose est sûre, cependant, les nouvelles technologies sont en train de modifier peu à peu notre cerveau. Une étude de l'Université de Columbia publiée en 2011 avançait que le fait de savoir qu'une information est accessible nous pousserait à ne pas la mémoriser. En revanche, notre mémoire spatiale, c'est-à-dire notre capacité à analyser et mémoriser les objets dans notre environnement, serait meilleure grâce au temps passé en ligne. De plus, d'après certaines études, les jeux vidéo favoriseraient, tant chez l'adulte que l'enfant, l'intelligence déductive et l'esprit d'analyse. C'est vrai que notre mémoire à court terme peut être affectée et il se peut que notre façon d'apprendre soit en train de changer. Mais est-ce mauvais en soi? Tout dépend de la façon de voir les choses. Bref, tous ne sont pas d'avis que les technologies nuisent à la santé. Si certains estiment que le temps passé devant les écrans incite à la sédentarité et aux problèmes de santé qui y sont reliés, d'autres y perçoivent des effets bénéfiques. Geneviève dit qu'elle a gagné en motivation grâce à certaines applications qui l'aident à faire un suivi de ses progrès à la course. Un bénéfice qui a été confirmé par des chercheurs de la Northwestern University en 2012, car selon ces derniers, l'utilisation d'une application destinée à calculer les dépenses énergétiques avait véritablement contribué à la réussite des personnes souhaitant perdre du poids. People.
People. C'était le groupe Gorillaz. Faire les bons choix à l'épicerie. C'est dans le mois et compagnie de novembre et c'est par Isabelle Huot. C'est parti avec ses 10 conseils pour un panier optimal. Premièrement, aller au supermarché quand on n'a pas faim. C'est trop facile de succomber aux tentations sucrées et salées quand la faim nous tenaille. Pour résister, je vous conseille de ne pas aller faire l'épicerie le ventre vide. Si le dernier repas remonte à quelques heures, on prend une petite collation de type yaourt grec pour nous soutenir. Ça, c'est bien vrai, hein.
Parce très
que sinon, oui, et puis si on va à l'épicerie et qu'on a faim, là, c'est l'horreur, hein.
Oh oui.
On achète tout ce qu'il ne faut pas acheter. Visiter principalement les allées des extrémités. C'est là qu'on trouve les aliments de base, comme les fruits, les légumes, les viandes, les poissons et les produits laitiers. Notre panier devrait contenir principalement ces aliments qu'on cuisinera soi-même. On évite ainsi les allées de biscuits, croustilles et boissons gazeuses. Choisir des fruits et des légumes de couleurs variées. L'oranger, le jaune, le rouge, le vert. Les aliments colorés étant reconnus comme des aliments santé, il faut s'assurer d'en mettre de toutes les couleurs dans son assiette afin de se procurer un large spectre d'antioxydants. Cette règle s'applique autant pour les fruits que pour les légumes. Choisir des produits qui ont de courtes listes d'ingrédients. Je préfère définitivement les produits qui affichent une liste d'ingrédients courte et dépourvue d'additifs. On souhaite que la composition du produit rappelle celle d'un plat fait maison. La lecture de la liste d'ingrédients devrait devenir un réflexe. Cap sur le clean label. Prévoir du poisson pour au moins 2 repas par semaine. Truite, saumon, maquereau, sardines, morue et tutti quanti remplacent avantageusement la viande dans les repas. Les bons gras des poissons procurent plusieurs bénéfices salutaires. Lire le tableau d'information nutritionnelle. Le tableau contient tous les renseignements pertinents pour nous permettre de mieux sélectionner nos produits. On se concentre sur la teneur en sucre, en gras et en sel, qui doit être basse, et sur celle en protéines et en fibres, qui doit être élevée. Acheter des légumineuses chaque semaine. On les néglige encore trop souvent et pourtant, elles sont gorgées de nutriments. On apprécie les légumineuses en version froide ou chaude, car elles constituent un lunch rapide qui soutient. Lentilles, pois chiches, fèves rouges et edamame, les choix ne manquent pas. Miser sur les grains entiers, pâtes, pain, craquelin, peu importe le produit céréalier, le fait d'opter pour des aliments à grains entiers nous garantit une nette valeur ajoutée. Plus riche en fibres et en antioxydants, le produit de grains entiers est assurément un choix santé. Regardez les tablettes du haut et du bas. Des produits très intéressants se trouvent aussi au-dessus et au-dessous des yeux. Il ne faut pas avoir peur de s'agenouiller pour repérer d'excellents choix qui se trouvent plus bas. Et enfin, oubliez les tablettes de chocolat vendues aux caisses. On résiste au chocolat qui apportera 250 calories inutiles. Après ces conseils pour faire notre épicerie, quelques explications concernant le riz. C'est par Catherine Lefebvre, toujours dans le mois et compagnie de novembre. Et le riz, qui est la céréale multi-ethnique. Encore plus populaire que le blé, le riz est la céréale la plus consommée dans le monde. Originaire de l'Asie du Sud-Est, il est aussi présent dans les tables africaines et sur les tables sud-américaines. Portrait de cet aliment aux multi-usages. Si on connaît bien le riz blanc, il faut savoir qu'il existe une foule d'espèces de riz dont la couleur et la longueur du grain varient. Il y a d'abord le grain blanc qui est court, aussi appelé riz à grain rond. Son contenu en amidon est plus élevé, c'est pourquoi il devient plus collant à la cuisson. On utilise le riz arborio pour cuisiner un risotto puisqu'il absorbe bien le liquide sans devenir trop mou. On opte aussi pour un riz à grain court pour faire des sushis. Il y a toujours le riz blanc, mais à grain long. Son grain plus long n'a pas tendance à coller, à moins de le cuire trop longtemps ou de le remuer fréquemment pendant la cuisson. On cuisine avec un riz à grain long pour confectionner des plats comme un jambala ou un pilaf. Il y a le riz basmati, un type de riz à grain long parfumé naturellement, originaire du Pakistan et du nord de l'Inde. Il accompagne à merveille la plupart des plats en sauce indien et fait un excellent riz frit. Il y a le riz au jasmin, cet autre type de riz à grains longs, aussi parfumé, provient de la Thaïlande. On le trouve aussi de plus en plus en version entière. Il sert de lit pour les sautés, les carrés thaïlandais et autres plats en sauce. Le riz brun, aussi connu sous le nom de riz complet. Le riz brun est simplement décortiqué, débarrassé de la balle, son enveloppe qui est non comestible. Selon la longueur de son grain, on l'utilise comme un riz blanc. Son temps de cuisson sera plus long, 30 à 45 minutes, et il sera moins collant que le riz blanc, vu sa teneur en fibres. Le riz rouge, son enveloppe est rouge à cause des anthocyanines, un antioxydant précieux qu'il ne faut pas confondre avec la levure de riz rouge obtenue par fermentation. Puisqu'il est aussi entier, on le cuisine comme le riz brun. Il a tendance à moins s'agglutiner que le riz blanc. Le riz noir, aussi appelé riz interdit. Le riz noir à grains courts était jadis réservé à l'empereur de Chine. Comme les riz bruns et rouges, sa teneur en nutriments est plus intéressante que le riz blanc. Plus cher que le riz blanc, on l'ajoute en petite quantité pour donner de la couleur à une recette où le riz à grains courts est de mise. Et enfin, le riz sauvage. Contrairement au riz noir, le riz sauvage à grains longs vient d'une plante d'une autre famille que celle du riz qu'on connaît. Comme il coûte cher, on l'utilise avec parcimonie pour ajouter de la couleur et de la texture à votre accompagnement.
s'absenter de la maison en toute sécurité. Quand on quitte son domicile pour quelques jours ou pour une plus longue période, on aime avoir l'esprit tranquille. Pour éviter les mauvaises surprises au retour, on vous donne de bons conseils pour sécuriser votre maison pendant votre absence.
Tout d'abord, ne jamais mentionner vos départs sur les réseaux sociaux, et ce, en tout temps. Donnez l'impression qu'il y a quelqu'un chez vous en laissant la radio en marche. Installez des minuteries pour que les lumières extérieures s'allument au crépuscule et s'éteignent au lever du jour.
Avisez pour une courte absence maintenant. Avisez un voisin de votre absence pour qu'il surveille votre domicile et lui demandez de ramasser votre courrier. Confiez à une personne responsable le balayage des feuilles mortes ou le pelletage de la neige dans l'entrée.
Et pour une absence prolongée, confiez le double de vos clés à un membre de votre famille pour qu'il puisse aller faire un tour de temps à autre afin de donner l'impression qu'il y a quelqu'un à la maison. Offrir à un voisin de garer sa voiture dans votre entrée de stationnement. Louer un coffret de sûreté à la banque pour y déposer vos bijoux précieux et laisser vos objets de grande valeur chez une personne de confiance. Et si vous devez vous absenter souvent, pourquoi ne pas faire installer un système d'alarme? Mon ado n'est pas rentré de la nuit. On lui a envoyé des textos, on a appelé ses amis, pas de nouvelles. Que faire quand il refera surface? Il se peut qu'on pleure ou qu'on crie après lui. Normal, on a tellement eu peur. Mais le mieux, c'est d'essayer le plus possible de contenir nos émotions. Si on se met en colère, il risque soit d'exploser lui aussi, soit de garder le silence, avertit Caroline Palardi, intervenante à la ligne Parents de tels jeunes. Dans les deux cas, ça ne réglera rien. Pour la même raison, on évite les attaques personnelles. On évite aussi de l'ignorer ou d'affecter l'indifférence, car on aurait l'air de se fier chez lui. Compliqué tout ça? Qui a dit que c'était facile d'avoir un ado? Idéalement, on peut réagir en deux étapes. À son retour, on lui dit combien on s'est inquiété, mais comme il sait déjà tout ça, on ne s'éternise pas là-dessus. On l'avise cependant qu'on en reparlera plus tard, une fois revenus de nos émotions. Cette deuxième discussion servira à lui demander sa version des faits et à lui rappeler qu'il doit nous avertir si ça se répète. Il faut être ferme sur ce dernier point. Selon ce qu'il nous dira, on jugera s'il est approprié de lui donner une conséquence, le priver de sortie, par exemple.
Cinq astuces simples pour une soirée réussie. Alors tout d'abord, s'y prendre à l'avance. Les agendas se remplissent vite, mieux vaut donc fixer une date précise si l'on veut s'assurer de réunir tout le monde. Ensuite, envoyez les invitations sur Facebook, plus facile que de gérer 62 courriels de groupe. Engagez une ou deux gardiennes pour surveiller tous les enfants au même endroit. Élire un de nos hommes comme chauffeur désigné, ou louer une limousine si l'on a envie d'une virée de star. Et enfin, miser sur la simplicité. Au fond, le plus important, c'est de se retrouver tous ensemble. Merci à vous pour cette petite heure passée avec nous. Merci à Jean-Sébastien Laliberté pour sa mise en onde et ses choix musicaux très judicieux. Si vous avez des commentaires, vous pouvez laisser un message au 1-800-361-0635, poste 220 ou sur notre site de canalm.org. Moi, je vous retrouve le 3 décembre parce que je m'absente 2 semaines et je vous souhaite une belle journée malgré la pluie. Hein, Geneviève?
Oui, une belle journée malgré la pluie. À la prochaine, Dominique. Et moi aussi, je vous dis à la prochaine.